Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 6. Étude numéro 6 de notre merveilleuse série qui est l'importance de la rédemption. Le titre de l'étude numéro 6 ce matin, c'est la gloire de l'alliance avec Abraham. Abraham fut appelé ami de Dieu. Notez Jacques, chapitre 2, verset 23, et Ésaïe, chapitre 41, verset 8. Abraham est le père de tous les croyants, selon Romains chapitre 4, verset 11. Et comme tel, il est non seulement le commencement, mais encore le modèle de toute expérience de foi. En relation avec lui, quatre principes essentiels sont introduits pour la première fois dans l'histoire du salut. Le caractère inconditionnel du salut, et cela dans la justification et la glorification. Ensuite, la base centrale du salut, et cela dans la puissance divine de résurrection. Ensuite, la méditation du salut dans la postérité ou germe à venir. Et quatrièmement, le but du salut, et cela pour la cité céleste. Chers amis, premièrement, nous avons dit, le salut est inconditionnel. Inconditionnel. En effet, l'événement le plus significatif dans la vie d'Abraham ne fut pas vraiment le départ d'Ur en Chaldée, Genèse chapitre 12, mais plutôt cette révélation reçue à peu près 10 ans plus tard, et cela par une nuit étoilée, lorsque Dieu conclut avec le patriarche l'alliance de la foi. Genèse chapitre 15, verset 5 et le verset 18. C'est à ce moment-là que Abraham fut justifié. Et c'est à l'occasion de ce récit que pour la première fois dans les annales du salut, se trouve mentionné d'une manière expresse la justification d'un pécheur. Genèse chapitre 15 verset 6 et notez Romains chapitre 4 verset 2 à 4. Premièrement, nous avons la justification. C'est aussi l'instant le plus important et le plus décisif. À quel moment, en effet, la foi fut-elle imputée à justice au patriarche? Est-ce avant ou après sa circoncision? Romains 4, verset 10. 13 ans avant, l'alliance de la circoncision fut établie alors que Abraham était âgé de 99 ans. Genèse chapitre 17, verset 1 à 14. L'alliance de la foi et la justification précèdent la naissance d'Ismaël, se plaçant donc avant sa 86e année. Genèse chapitre 16. Spécialement noté le verset 16 et le chapitre 17, verset 1. Abraham fut donc justifié 13 ans déjà avant d'être circoncis. C'est sur cet ordre de succession que saint Paul, en Romains 4, bâtit son raisonnement, montrant que selon les Saintes Écritures, la justification repose sur la foi seule. Humainement parlant, il a pu sembler indifférent à Abraham d'être justifié avant ou après la circoncision. Mais Dieu avait en vue, dans cet ordre chronologique précis, il avait en vue une fin prophétique. Abraham devenait par là le père de tous ceux qui seraient justifiés par la foi en dehors même de la circoncision. On le voit donc, l'ordre de succession des deux alliances dans la vie d'Abraham, loin d'être dénué de signification, est pleinement prophétique. À lui seul, il montre déjà que la circoncision ne peut être une condition préalable à la justice de la foi. Romains 4, verset 11. Et n'en peut être que le sceau. Je répète, à lui seul, il montre déjà que la circoncision ne peut être une condition préalable à la justice de la foi et n'en peut donc être que le sceau. On ne pose un sceau que sur un document complet ou complété. Telle fut donc la justification d'Abraham, conclue et complétée bien antérieurement. Le récit si contesté du sacrifice d'Isaac n'est pas un simple passage de l'Ancien Testament que l'on serait libre de laisser de côté, comme le pensent même certains illustres professeurs théologiques. Mais, voyez-vous, c'est bien au contraire le point culminant de la vie du patriarche. Ce dernier étant le tronc de la révélation de la rédemption, le récit doit donc être considéré comme prophétiquement symbolique, le point culminant de la promesse qui est à la base de l'Évangile en général. La conception du sacrifice développé ici est unique. Elle n'a rien de commun avec celle qui caractérisait les sacrifices canaano-phéniciens, sémitiques, indiens, aztèques ou autres sacrifices humains. Le sacrifice de Morija, il se distingue au moins par un triple contraste. Voyons cela, premièrement. Premièrement, par l'âme du sacrifice. C'est le cœur et non la forme qui en fait l'essentiel. Voyez-vous, Abraham a sacrifié Isaac à Dieu, selon Hébreux chapitre 11, verset 17, et pourtant, il ne l'a pas tué. Le geste extérieur du sacrifice a été arrêté soudainement par Dieu. Genèse chapitre 22, versets 12 et 13. Ce en quoi est manifesté que ce n'est pas la forme extérieure qui en fait un sacrifice, mais l'intention du cœur, non pas la présentation de l'offrande, mais la piété de l'âme, de notre âme et de notre esprit. Cette conception intérieure et spirituelle du sacrifice est donc mise en avant ici pour la toute première fois dans le récit du salut. Et c'est pour cette conception spiritualisée du sacrifice que les prophètes ultérieurs de l'Ancien Testament ont lutté, dénonçant sans faiblesse le formalisme, oui, on peut dire le formalisme juif. Notez Ésaïe, chapitre 1, verset 10 à 15, le chapitre 66, verset 3, Jérémie, chapitre 6, verset 20, et c'est intéressant de noter encore Michée, chapitre 6, verset 6 à 8, et le psaume, chapitre 40, versets 6 à 8. Donc, le but final du sacrifice, ce but est non point la mort, mais la vie. Alléluia. L'ordre de sacrifier la seule et unique personne à travers laquelle devait se réaliser la promesse a dû en effet paraître plein de contradictions. Comment la promesse de Dieu pourrait-elle s'accomplir puisque elle n'était liée à personne d'autre que ce même Isaac sans descendant au moment du sacrifice, Genèse chapitre 17, verset 21, et le chapitre 21, verset 12. Le commandement de Dieu semblait ici, il semblait en conflit avec sa fidélité, conflit intolérable, mais puisque Dieu ne peut mentir, il restait une solution à la réflexion de la foi. Ou bien Dieu pourvoirait lui-même à un animal qui serait sacrifié à la place d'Isaac, Genèse chapitre 22, versets 7 et 8, ou bien, s'il fallait en venir réellement à la mise à mort de l'unique fils, Dieu le ramènerait à la vie comme porteur de la promesse. Hébreux chapitre 11, verset 19. Donc, celui qui demandait une offrande consumée, Genèse 22, verset 2 et 3, et les versets 6 à 8, réclamant ainsi que Isaac tué avec un couteau, verset 10, soit brûlé au bois et réduit en cendres, eh bien, Dieu était capable, à cause de la fidélité et des promesses, de rendre la vie aux cendres d'Isaac. Et c'est bien jusqu'à cette dernière extrémité que notre ami Abraham semblait devoir aller à Moridja. Genèse chapitre 22, versets 9 et 10. Telle est donc la hardiesse de la foi. Les saintes Écritures l'attestent, et par l'acte qui sacrifiait son fils, Abraham attestait que Dieu était capable même de le ressusciter d'entre les morts. Hébreux 11, verset 19. Et c'est pour cela qu'il avait dit à ses serviteurs, il l'avait dit en les quittant, lorsque nous aurons, écoutez bien, lorsque nous, au pluriel, aurons adoré, nous et non pas je, nous reviendrons. Genèse chapitre 22, verset 5. La foi réconcilie les contraires. À travers cette épreuve, la foi d'Abraham fut ennoblie jusqu'à devenir le type de la foi néo-testamentaire en la résurrection. À la naissance d'Isaac, elle avait été une foi en résurrection, dans le sens de vivification des capacités naturelles importantes et mortes. Romains, chapitre 4, verset 17 à 20. Au sacrifice d'Isaac, elle devient donc une foi en résurrection dans le sens littéral de la résurrection d'un mort. Par la croissance active de sa foi, le patriarche atteignit, ou il a donc atteint l'idée de la résurrection, et par le déroulement effectif du sacrifice, celui du bélier à la place d'Isaac, il a atteint l'idée du véritable sacrifice qui est la substitution. Et en cela, il est un nouveau type de notre foi, car la résurrection dans le sacrifice du Seigneur fait inséparablement partie de la croix, et en elle, la vie triomphe de la mort. Romains, chapitre 8, verset 34, et chapitre 5, verset 10, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17 à 19. Le but de Morija, c'est Golgotha. Ce n'est pas le présent, mais c'est l'avenir qui donne à ce sacrifice sa plus haute valeur. Et c'est pour cela que fut choisie la montagne de Morija. Sur cette montagne, un jour, allait se dresser le temple. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Et là, seraient apportées sur l'autel des offrandes consumées, sacrifices tournés vers le Christ. Là, à l'heure de Golgotha, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint allait se déchirer. Saint Marc, chapitre 15, verset 38. Isaac devenait donc un type du Christ, et Abraham, celui de Dieu le Père. Le point culminant de l'alliance la plus fondamentale et la plus décisive de tout l'Ancien Testament devenait prophétie symbolique du centre même de tous les testaments et alliances de Dieu, la croix de Golgotha. Dans le sacrifice de Morija s'inscrivent donc trois grandes vérités qui sont en relation avec le salut. Trois vérités qui concernent la conception biblique de sacrifice. Tout d'abord, nous avons la nature spirituelle du sacrifice. Deuxièmement, nous avons la résurrection de la victime sacrifiée. Et troisièmement, nous avons l'accomplissement du sacrifice en la personne du Christ, cette dernière vérité étant la plus importante des trois. Deuxièmement, nous avons le médiateur du salut. Abraham est comparé à Christ. Nous connaissons extraordinairement peu de choses des 175 années de la longue vie d'Abraham. Genèse chapitre 25, verset 7. Presque tout se rapporte à la postérité attendue. C'est cela qui a le plus d'importance. Il y avait eu avant Abraham des promesses relatives au Rédempteur à venir. Oui, celui qui devait écraser la tête du serpent, Genèse chapitre 3, verset 15, et qui devait apporter le repos, Genèse chapitre 5, verset 29. Yahvé, le Dieu de Sem, selon Genèse chapitre 9, verset 26. Mais ces promesses, elles étaient voilées et extrêmement rares. Donc ces trois promesses sont les seules d'une période d'environ 2500 années. Avec Abraham, l'attente de la postérité prévaut, devient la pensée dominante et va jusqu'à éclipser tout le reste, selon Galates chapitre 3, verset 16. Ce serait désormais la toile de fond de tout événement de l'histoire sacrée. La postérité est à ce point le centre de la vie des patriarches que leur histoire relatée dans la Sainte Bible laisse presque entièrement de côté leur personne pour ne se préoccuper presque dans chaque chapitre que de leur attente de l'héritier promis. Que l'on pense à la première promesse de la postérité, Genèse chapitre 12, à la conclusion de l'Alliance, chapitre 15, à la naissance d'Ismaël, la fausse postérité, chapitre 16, que l'on pense à l'Alliance de la circoncision, chapitre 17, à la visite, rappelez-vous, des trois hommes au chapitre 18 et au renvoi d'Ismaël, chapitre 21, ainsi qu'au sacrifice d'Isaac, chapitre 22, et à la recherche d'une épouse pour son fils, au chapitre 24. C'est un fait. La vie des patriarches n'a pas sa raison d'être en soi. Le point capital est la qualité de médiateur de chacun d'eux. Ils sont les intermédiaires du salut à venir. Abraham existe à cause du Christ. Christ vivait avant lui, Saint Jean chapitre 8 verset 58. Christ vivait en lui, premier épître de Pétre chapitre 1 verset 11 et la Genèse chapitre 20 verset 7. Christ vivait après lui, bien que déjà présent à son esprit. Saint Jean, chapitre 8, verset 56. C'est pour cette raison que voir le jour du Messie aurait été le point culminant de sa vie. Nulle part dans l'Ancien Testament, nous ne lisons que Abraham se réjouit. Jésus-Christ en parle dans le Nouveau Testament. Quel fut le fondement de ce cri de joie exultante du patriarche? Le Seigneur, il dit, Abraham, Abraham, votre père, il s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'en est réjoui. Saint Jean, chapitre 8, verset 56. Par la vue du Rédempteur, par la vue du Rédempteur, en effet, la foi d'Abraham s'éveilla et exulta. La même joie est impartie à tous les vrais fils d'Abraham. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Pour Abraham lui-même, le Rédempteur est absolument tout. Par exemple, le Rédempteur est l'origine de son être. Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 58. Le Rédempteur est l'aspiration de sa vie. Notez Galates, chapitre 3, verset 16. Le Rédempteur est le motif intérieur de ses efforts. Notez Genèse, chapitre 15, verset 3. Le Rédempteur est la force de son service. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, et Genèse, chapitre 20, verset 7. Le Rédempteur est le canal de sa bénédiction. Notez Galates, chapitre 3, verset 14. Le Rédempteur est l'objet de son espérance. Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 56. Le Rédempteur est également le sujet de sa joie. Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 56. Nous avons l'ange de l'Éternel. Voyez-vous la signification spirituelle de l'alliance avec Abraham et aussi la raison pour laquelle c'est à ce moment précis, selon la Genèse chapitre 16, verset 7, que pour la première fois dans l'histoire de la rédemption, l'ange de l'Éternel apparaît. Comme les pères de l'Église le reconnaissent déjà, et après eux, des commentateurs tels que Calvin, Nietzsche, Keil, Lang, Hevernich et d'autres, eh bien cet ange de l'Éternel n'est ni autre ni moins que le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire la parole vivante, le Verbe, Saint Jean, chapitre 1, verset 1, et die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 19, verset 13, qui apparaîtra ensuite au temps évangélique en la personne de Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et là, il faudrait expliquer. C'est pour cela qu'il s'appelle lui-même Dieu, Exode 3, verset 2, et le verset 6. Et il est ainsi nommé par les historiens bibliques, Genèse chapitre 1, verset 22 et le verset 11, ainsi que Exode chapitre 3, verset 2, toujours Exode chapitre 4, verset 7, et notez encore Juges, le livre des Juges, chapitre 13, verset 22. Et c'est pour cela aussi que lui sont attribuées les caractéristiques divines, selon Juges, chapitre 13, verset 18. Notez Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Saint Jean, chapitre 12, verset 41, Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 4, et les actions divines, Genèse, chapitre 16, verset 10, chapitre 18, verset 10, et les versets 13 à 14, ainsi que toujours encore la Genèse, chapitre 48, verset 15 et 16. Notez encore Exode, chapitre 23, versets 20 et 21. Et notez Juges, chapitre 2, verset 1. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et c'est pour cela que l'honneur divin lui est rendu, selon Genèse, chapitre 16, verset 13. Et notez encore Juges, chapitre 6, versets 22 et 24. L'honneur qu'il accepte d'ailleurs, selon Josué, chapitre 5, verset 14. Et au contraire, notez encore Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Ainsi que le chapitre 22, versets 8 et 9. Si cet ange de l'Éternel, avant d'apparaître à Abraham, est également apparu à Agar, si cet ange, oui, qui est nommé dans la Genèse chapitre 16, verset 7, eh bien, c'est sur le même principe selon lequel, plus tard, le ressuscité, il se révélera d'abord, non pas à Marie, comme tout le monde le suppose, qui était sa mère, ou par exemple au disciple Saint Jean, mais il est apparu à Marie, il apparaît à Marie Madeleine, Saint Jean chapitre 20 verset 1 à 18 et Saint Marc chapitre 16 verset 9. Pourquoi cela? Pourquoi se montre-t-il d'abord à cette Marie Madeleine qui semble bien indigne? Eh bien, voyez-vous, il se montre d'abord aux plus affligés, c'est-à-dire à ceux qui sont les rejetés. Car, voyez-vous, il est le sauveur des pauvres, selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 3, et le chapitre 11, verset 5. Oui, qu'il soit apparu Jésus-Christ pour la première fois exactement à ce moment de l'âge patriarcal et se soit manifesté sous ce nom et sous cette forme, cela a sa cause dans le fait que l'âge patriarcal est le fondement réel de la révélation du salut. C'est le commencement effectif d'une préparation définitive de sa propre incarnation. rien ne saurait être plus approprié que cette première apparition du Fils de Dieu. Il y indique à la fois une totale unité avec Dieu et une certaine distinction d'avec Dieu. La postérité apparaît au Père de la postérité, Galates chapitre 3, verset 16, et cela en qualité de messager. Et dans le Nouveau Testament aussi, Christ est appelé une fois le messager, c'est l'apôtre de la foi que nous professons. Hébreux chapitre 3, verset 1. D'ange du Seigneur, selon la Genèse, chapitre 22, versets 11 et 15. Et depuis lors, d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, on voit courir la ligne organique continue de cette auto-révélation voilée du Fils, c'est-à-dire de l'ange de l'Éternel. Genèse, chapitre 16, verset 7. À l'ange de sa face. Ésaïe 63, verset 9, et notez encore Exode, chapitre 33, verset 14, et le verset 23, verset 20 et 21, et de l'ange de l'Alliance, selon Malachie, chapitre 3, verset 1, à Yahvé lui-même, venant subitement dans son temple. Notez Malachie, chapitre 3, verset 1. Nous avons donc le but du salut. La foi atteint finalement son but en Christ. Ce but, c'est la cité céleste. Ainsi en fut-il aussi d'Abraham. Il vécut comme un étranger sur la terre promise et habita sous des tentes avec Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Il attendait la cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, versets 9 à 10. C'est la Jérusalem d'en haut qui est construite d'or pur. Et vous pouvez avoir la confirmation dans Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 21, verset 21. Et dès lors, le but de toute aspiration de la foi. La Sion céleste est donc notre mère à tous, selon Galates chapitre 4 verset 26 et Hébreux chapitre 12 verset 22. C'est la cité permanente promise à tous ceux qui habitent les tentes de la foi. Hébreux chapitre 13 verset 14. Ici-bas, apatrides, nous sommes ici-bas apatrides, mais là-haut, nous sommes citoyens. Ici-bas, c'est seulement une tente, selon la Genèse, chapitre 12, verset 8, et chapitre 13, verset 18, mais là-haut sera une cité. Ici-bas, c'est l'autel, selon la Genèse chapitre 12, verset 8 et le chapitre 21, verset 33. Mais là-haut, c'est la face de Dieu, c'est le festin de son royaume, Saint Matthieu chapitre 8 verset 11. Tel est donc l'appel céleste de l'alliance abrahamique. Pour terminer cette étude, oui, nous ne la terminons pas encore, non. On peut encore dire certaines choses importantes. Alors donc, nous avons l'époque des patriarches, il ne faudrait pas l'oublier. L'alliance avec Abraham s'est remarquablement déployée, tout d'abord dans la vie du patriarche lui-même, puis dans ses descendants corporels et spirituels. Voyons cela de plus près. Premièrement, nous avons les étapes de ce développement dans la vie d'Abraham. On peut aisément distinguer 5 étapes dans la vie de foi du patriarche. Le début en est chaque fois signalé par des révélations divines significatives. La première étape, notez la Genèse chapitre 12 verset 14, cette première étape, elle commence avec le départ loin d'Ur, en Chaldée, et la migration d'Abraham vers la terre de la promesse. Cette époque se rapporte particulièrement à son appel. La seconde étape, notez la Genèse chapitre 15, verset... Non, la Genèse chapitre 15 et le chapitre 16 inclus. Et donc, cette seconde étape commence avec l'alliance établie sur la base de la foi et par laquelle il fut déclaré juste. C'est le sceau de cette foi étant le sacrifice de l'alliance. La signification spéciale de cette étape est donc la justification. Après une période de 13 années, selon la Genèse chapitre 16, verset 16, et le chapitre 17, verset 1, là, nous avons la réponse divine à l'action précipitée d'Abraham avec Agar. Et vient donc là la troisième étape, Genèse chapitre 17, verset 21. Et elle commença avec la modification apportée à son nom. Rappelez-vous, avant, il s'appelait Abram, père de beaucoup, et il devient Abraham, père d'une multitude. En même temps était introduite l'alliance de la circoncision et la consécration du patriarche à la piété et à la sainteté. Quelques explications. La circoncision n'est nullement le moyen de la justification, pas du tout. Notez Romains, chapitre 4, verset 9 à 12. Ou de la sanctification, non plus. Galates, chapitre 5, verset 2 à 12. La circoncision, elle symbolise, elle typifie la sanctification et plus spécialement l'acte par lequel la nature pécheresse est livrée à la mort et toute vie étrangère à Dieu retranchée avec ses impulsions. Et c'est pourquoi la circoncision qui n'est pas faite de main d'homme voyez bien la différence, qui n'est pas faite de main d'homme. C'est le bannissement du corps de la chair. Cela veut dire, c'est d'être crucifié et d'être mort ensemble avec le Christ. Colossiens chapitre 2 verset 11 et Romains chapitre 6 verset 2 à 4. La principale épreuve ou la quatrième étape, selon la Genèse chapitre 22, est en relation avec cette consécration. Après cette suprême mise à l'épreuve de sa foi, le don de son fils à Moridja peut enfin venir la cinquième et dernière étape, c'est-à-dire la période de calme et de repos le soir et le perfectionnement de sa vie. Genèse chapitre 23 et le chapitre 25 verset 10. Deuxièmement, nous avons la transmission de l'alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham demeure le fondement de la relation de Dieu avec les deux patriarches suivants. Quand il est question d'une alliance avec Isaac et Jacob, il ne s'agit pas d'une autre ou d'une alliance toute nouvelle, mais seulement d'une confirmation, d'un maintien et d'une transmission de la même alliance abrahamique. Notez Genèse chapitre 26 verset 3, chapitre 28 verset 13 à 15, et le chapitre 35, verset 12. Et c'est pourquoi Dieu dit à Isaac, « Je serai avec toi, oh oui, mais en plus, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Genèse chapitre 26, verset 3. À Jacob, il se révèle sans réserve comme étant le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Genèse chapitre 28, verset 13. Et il ajoute, par ailleurs, aucune nouvelle stipulation substantielle. Genèse chapitre 35, verset 12. Donc, de telles transmissions de l'alliance étaient nécessaires, Isaac ayant pour frère Ismaël et les enfants de Kétura, Genèse chapitre 25, versets 1 à 4, de même que Jacob avait pour frère Ésaü, ceci rendait indispensable une promesse divine spéciale, stipulant lequel de tous ses descendants serait le bénéficiaire de l'alliance abrahamique. À partir de Jacob, ce ne sera pas, ou c'est plutôt, ce ne sera plus utile. Aucun de ses enfants n'était exclu de la bénédiction. Les transmissions de l'alliance pourront donc prendre fin. Abraham avait en tout, il avait trois sortes de postérité. Premièrement, purement corporelle, c'est-à-dire Ismaël, les enfants de Kétura, spécialement Madian. Genèse chapitre 25, versets 1 à 4. Et Ésaü, qui est Édom. Deuxièmement, corporel et spirituel, nous avons Isaac, Jacob et Israël. Troisièmement, purement spirituel, nous avons les croyants de toutes les nations. Romains chapitre 4, versets 11 et 12, ainsi que Galates chapitre 3, verset 14. La promesse qui lui a été donnée trouve donc un triple accomplissement. La promesse d'après laquelle ses descendants seraient comme la poussière de la terre. Genèse chapitre 13, verset 16. Il serait également comme le sable de la mer. Hébreux chapitre 11, verset 12. Et, sans oublier, il serait comme les étoiles du ciel. Genèse chapitre 15, verset 5. Et on sait qu'il y a quand même quelques étoiles dans le ciel. Abraham devient donc, est devenu à la fois ancêtre d'une multitude de peuples, selon la Genèse chapitre 17, verset 5, ce qui arriva par le moyen de sa descendance corporelle ou spirituelle, c'est le canal de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12, verset 3. Ce qui s'accomplit par Christ et par la bénédiction spirituelle qui découle de la rédemption. Galates chapitre 3, verset 14. Et troisièmement, nous avons les bénéficiaires de l'Alliance. Ce sont Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ce sont eux les bénéficiaires de l'Alliance. Telles sont les personnalités clés de la période patriarcale de la promesse. La foi leur est commune à tous, ainsi que la promesse de l'Alliance, son fondement. Cette commune possession brille néanmoins d'un éclat différent dans chaque cas. Abraham est celui dont la foi cherche et trouve. Il attendait d'abord le pays, puis l'héritier, et enfin la cité céleste. Genèse chapitre 12, verset 1, et le chapitre 15, verset 3, ainsi que Hébreux, chapitre 11, verset 10. En Isaac, la foi endure et elle se repose. Il est dit, il endura l'épreuve du mont Morija. Rappelez-vous, notez la Genèse chapitre 22. Il renonça à ses puits très importants pour éviter tout conflit avec ses ennemis. Genèse chapitre 26, versets 15 et 17, ainsi que le verset 20 et le verset 22. Il ne fit aucun des grands voyages que avait fait Abraham ou d'un Jacob ou encore d'un Joseph. en Jacob. La foi sert, elle sert et porte du fruit. Il fut préféré, rappelez-vous, à son frère incrédule, Malachie chapitre 1, verset 2, et Romains chapitre 9, versets 12 et 13. À cause de sa foi en la promesse, et tout cela, après plusieurs années de service, il parvient enfin au plus grand accroissement et à une très grande fertilité. Genèse chapitre 29 et le chapitre 30. En Joseph, enfin, il y a la foi et il y a la, on peut dire, une grande souffrance. Et la foi et la souffrance a triomphé. Et dans son humiliation, Joseph, comme dans son élévation, représente un type prophétique du Christ. Les quatre pris ensemble et dans l'ordre manifestent donc la loi de la croissance et la foi qui commence par chercher et à trouver pour être glorifié, et cela enfin dans son triomphe. Après avoir enduré la foi et servi et également porté du fruit, la succession des quatre patriarches, et on le voit bien, de la plus haute signification. Elle est de la plus haute signification. Nous devons donc commencer avec Abraham et de connaître ensuite l'expérience d'Isaac, celle de Jacob. Et tout cela afin d'atteindre les souffrances et la victoire de Joseph. Et dans ce sens, l'histoire de leur foi devient l'histoire de toute foi en général. La leur a atteint son apogée en Joseph, Joseph qui est le type du Christ. La nôtre, elle atteint sa perfection en Christ le vivant. Donc, conduire toute l'histoire du salut directement à lui, telle sera donc la tâche de la période suivante qui est celle de la loi. Chers amis, en Abraham, nous avons le gouvernement créateur de Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Romains chapitre 4 verset 17. En Isaac, nous avons la vie d'entre les morts. Romains 4 verset 19 à 24 et Hébreux chapitre 11 verset 19. En Jacob, nous avons la grâce inconditionnelle qui est imméritée et glorieuse. Nous avons la conséquence finale. Jacob, l'intrigant, devient un héros pour Dieu. Vous pouvez noter la Genèse chapitre 32, versets 28 à 30. Car Jacob signifie qui tient le talon. Israël signifie lutter avec Dieu. Là est donc l'origine d'Israël. Tout dans l'histoire d'Israël est lié à son appel et à sa commission. Premièrement, nous avons la tâche d'Israël. Et donc, là, Israël avait bien entendu la double tâche d'être le réceptionnaire, le réceptionnaire de la révélation divine, c'est-à-dire le pied-à-terre du Rédempteur, et par là, le berceau de l'Église chrétienne. Saint Jean chapitre 4, verset 22, et notez encore Romains chapitre 11, et je crois verset 16 jusqu'au verset 24. En même temps que le canal vers les nations de la révélation du salut en préparation de l'évangélisation du monde. Au premier abord, une certaine contradiction semble exister entre ces deux tâches. En Israël, elles sont cependant parfaitement conciliées. Pour devenir la patrie du Messie et le lieu de naissance du christianisme, Israël devait donc être un peuple replié sur lui-même, séparé des gentils, donc des nations, et en contraste avec eux, en sa qualité de peuple de la révélation, seul à connaître le Dieu vivant, puisqu'il est le seul à qui Dieu ait fait connaître sa volonté et sa loi. D'autre part, il fallait qu'il soit répandu parmi les nations, qu'il habite parmi elles et qu'il ait avec elles de constantes relations, et cela afin de préparer le chemin du christianisme. Nous avons deuxièmement l'attente messianique d'Israël. C'est du monde que le Messie est le Sauveur, selon Malachie, chapitre 1, verset 11, et Saint Jean, chapitre 4, verset 42. Et c'est là l'expansion la plus absolue, la libération de toute restriction ou limitation. L'humanité est une famille ayant une seule origine et un seul but. Tous les peuples de la terre sont participants de la rédemption avec Israël. De même que celui-ci, dans l'histoire de la révélation, est le fils premier-né de Dieu, selon Exode chapitre 4, verset 22, et bien ainsi, toutes les nations deviendront à la fin des fils de Dieu. Psaume 87, verset 4 et 6, ainsi que Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 8, et encore Ésaïe, chapitre 19, verset 25. Dans cette perspective-là, la prophétie israélite embrasse le plus large universalisme que l'Antiquité ait jamais connu. Mais il y a plus que cela. Par ce fait même se manifeste la concentration la plus absolue, oui, le rédempteur du monde étant un homme, un descendant de David, ainsi que un sauveur, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Effectivement, il est né dans le peuple juif. Il n'était point un juif, dans la signification humaine du mot. Dieu, il est Dieu manifesté en chair, selon 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est supra-racial, supranational, il est étranger par nature à tous les pécheurs, en même temps qu'il est sauveur et seigneur de toutes les races. Et pourquoi cela? Parce que il est le rédempteur du monde. Le fait qu'il soit né d'une vierge regarde non seulement sa sainteté en ce qu'il est libre de tout péché héréditaire, mais encore son œuvre comme étant le sauveur en ce qu'il est libre, absolument libre, de toute limitation raciale. Le fait le plus important est que l'histoire du monde ait dit oui à cette attente. Jésus de Nazareth, l'unique, le Fils de Dieu, a été exalté par des millions d'hommes comme étant le Seigneur et le Rédempteur. Sa richesse spirituelle et sa moralité extraordinaire ont été acclamées par des multitudes comme l'idéal le plus digne d'exemple. Mais pourquoi cette attente ne se trouva-t-elle pas aussi chez les Romains et les Grecs, plutôt que dans la seule révélation donnée au moindre, il faut bien le dire, au moindre de tous les peuples, Deutéronome 7, verset 7. Comment expliquer alors qu'il soit en fait apparu précisément comme l'accomplissement de la prophétie et soit devenu en réalité le sauveur du monde et la bannière des peuples? Ésaïe chapitre 11, verset 10 et Romains chapitre 15, verset 12. Est-ce par hasard? Il n'y a ici qu'une réponse raisonnable. La Sainte Bible, elle est vraie. C'est l'histoire du monde qui en témoigne. C'est l'accomplissement et la confirmation de la prophétie. Nous ne sommes pas assez crédules pour être incrédules. Progresser vers ce double but de la plus haute concentration et de la plus large extension mondiale, telle fut la signification de toute l'histoire d'Israël. Et c'est pour cela que toutes les choses qui concernent ce peuple ont été préparées compte tenu de ces deux exigences associées, quoique opposées. Voyez-vous? Troisièmement, nous avons l'aptitude d'Israël. En effet, aucun peuple n'est capable, comme le peuple juif, d'être largement répandu, tout en restant tellement séparé des autres peuples. Aucun autre n'est à la fois si national et pourtant si universel. Aucun autre ne préserve son individualité avec autant de ténacité, demeurant au milieu des autres, si fermé et si lié. Et pourtant, aucun autre ne parvient, comme le juif, à s'attacher à son lieu et à s'accommoder de toutes les circonstances. En tous les lieux, le juif peut s'établir et se faire une place. Pourtant, partout, il restera toujours un juif. Et quatrièmement, nous avons, pour terminer cette fois, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, nous avons le pays d'Israël. Ce pays qui est isolé comme une île, la Palestine, est une terre fermée, tel un jardin, par les montagnes, les déserts et l'eau. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 et 2. Sa côte ne compte pas de port naturel. Aucune rivière ne conduit à l'intérieur et la mer qui ailleurs unit les peuples est là une cause de séparation. En effet, il y a des voisins hostiles qui l'environnent et qui l'isolent de tous les côtés. Pourtant, Israël est le centre de la terre. Ézéchiel, chapitre 38, verset 12. Israël est un pont jeté entre les nations directrices et l'ancien monde oriental, placé là où trois continents se rencontrent en même temps que deux groupes nationaux de l'histoire ancienne, orientaux et occidentaux. Et de là, les routes partent dans toutes les directions, rendant donc possible l'approche des principales terres des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, des nations. Il n'est donc pas étonnant que les Assyro-Babyloniens et les Égyptiens se soient si fréquemment disputés la possession de ce fameux pont. En effet, voyez-vous, il y aurait à beaucoup à dire là-dessus, mais nous n'en aurons pas tellement la possibilité sur cette étude. Mais je dirais peut-être le minimum. Avant que les enfants d'Israël aient fait la conquête de ce pays, diverses puissances en avaient eu la possession ou y avaient exercé la suprématie. Avant 2100 avant Christ, les pré-Canaanites et avant 2000, les Hamito-Canaanites, Genèse 10, verset 15 à 20, vers 2000, les Élamites, Genèse 14, verset 1 à 4, vers 1900, les Babyloniens, vers 1500, les Égyptiens, période de Moïse et Amarna. On peut y comparer, dans les 3e et 4e siècles avant Christ, les conflits engagés pour la Palestine entre les Ptolémées égyptiens, rois du sud, et les Séleucides syriens, rois du nord. Notez Daniel chapitre 11. Oui, chers amis, il n'y a rien d'étrange à ce que cette situation géographique apparaisse comme la plus favorable lorsque le moment fut venu de porter l'évangile au monde. Et c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour, Ézéchiel 5, verset 5, le pays répondait ainsi complètement à la vocation de ses habitants. Dans son cas, le contraste entre la séparation et l'universalité s'exprime géographiquement en isolement et centralité. Selon la révélation divine pour l'histoire d'Israël, sa position parmi les nations peut se définir ainsi, séparation d'avec les peuples, mais pour les peuples. Oui, voyez-vous, le mot hébreu est dérivé de héber, l'opposé, l'autre côté, Genèse 10, versets 21 et 24, et repose apparemment sur une migration familiale inconnue de nous, des ancêtres d'Abraham d'au-delà du Jourdain, comme Héber, en tant que septième avant Abraham, il fut également l'ancêtre premier des autres Sémites, par exemple Ophir et Havila, Genèse chapitre 10, verset 25. Le mot hébreu désigne donc en premier lieu les groupes familiaux sémitiques pré-abrahamites, et dans la prophétie de Balaam, Héber est nommé en même temps que Assur, l'Assyrien. Et c'est plus tard seulement que le nom devient la description nationale du peuple de l'Alliance en tant qu'unité ethnique et politique en contraste avec les autres peuples. Chers amis, pour terminer, disons simplement que Judas était le quatrième fils de Jacob, selon la Genèse chapitre 29, verset 35, et Judas veut dire « louange » en tant que nom de collectivité, et il se rapporte d'abord à la seule tribu de Juda. Après la division du royaume vers 950 avant Christ, il indique que tout le royaume de Benjamin-Juda, 2 Rois chapitre 16 verset 6 et Jérémie chapitre 32 verset 12. Finalement, après le retour de la captivité babylonienne en 538 avant Christ, il désigne la nation entière, les 12 tribus en général, par exemple Saint Matthieu 27, versets 29 et 37. Le nom israélite dérive d'Israël, second nom du patriarche Jacob, donné après sa lutte avec Dieu à Péniel. Notez Genèse chapitre 32, verset 28. Israël veut dire combattant avec Dieu. C'est à proprement parler le nom théocratique du patriarche. Je dirais, pour terminer, que c'est ce qui se passe actuellement dans les environs d'Israël, la soi-disant Palestine. Je dis bien la soi-disant Palestine. Tout cela et fait partie de l'histoire de la fin des temps dans lesquels nous vivons, mais très bientôt, toute cette région que nous nommons Palestine, soi-disant un nouveau État, sera aboli et deviendra un Israël très puissant et très grand, et sera de la plus haute importance pour le monde entier. Cela ne va pas plaire à certains, mais je suis obligé de dire ce que la Bible dit. Chers amis, nous aurons donc dans la prochaine étude numéro 7, Israël, sa chute et ses errements. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.